France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous prenons, comme cela nous arrive parfois, du large aujourd'hui, pour nous interroger sur le sort et la place prise depuis plusieurs années, maintenant depuis plusieurs mois, par l'économie sociale et solidaire, et en particulier les associations. À ce sujet, ce mois de novembre est à nouveau dédié à l'économie sociale et solidaire. Et pour cette 13e édition, les rendez-vous se font évidemment à distance, ce qui ne facilite pas les échanges. Ils sont toutefois suffisamment nombreux pour que vous puissiez y trouver votre compte. Sur le site afférent ou dédié, plusieurs événements sont affichés auxquels vous pouvez enregistrer vous-même celui que vous organisez. Si c'est le cas, le site c'est lemoi-ess.org.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Jean-Louis Laville, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Merci de nous rejoindre, vous, titulaire de la chaire d'économie sociale au CNAM, auteur de nombreux ouvrages, observateur privilégié de la vie associative en France et à l'étranger. Je donnerai des références bibliographiques d'ailleurs de vos publications, mais vous nous avez envoyé annoncer l'écriture d'un manifeste international pour l'économie solidaire. Alors pourquoi international alors qu'on cherche déjà nous à rassembler à l'échelle nationale ?
C'est pour essayer de visibiliser en fait ce qui est encore peu perceptible, mais c'est qu'il y a sur tous les continents des enseignants, des chercheurs, des professeurs qui travaillent depuis maintenant des décennies avec l'économie solidaire. Et c'est de faire acte de présence ensemble pour dire qu'il y a un travail qui s'effectue dans chacun de ces contextes et que ce travail maintenant il doit être combiné parce que l'économie solidaire n'est pas une manière de rafistoler formes de société qui s'écrouleraient dans les coins, mais au contraire, de présenter un modèle en émergence, un modèle en émergence qui, finalement, vient se greffer sur deux modèles antérieurs. Dans les pays du Nord, il y avait l'économie sociale. C'est vrai que l'économie sociale a constitué un secteur témoin pendant longtemps. Elle est maintenant complétée par une multiplicité d'initiatives citoyennes qui ont voulu réaffirmer la capacité de transformation qui était nécessaire aujourd'hui.
Et on l'a vu pendant le premier confinement.
Exactement, on l'a vu, je pense, de manière claire, et ceci, on l'a vu, là encore, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir discuter, parce que le confinement, il nous enferme un peu dans notre local bocal, si j'ose m'exprimer ainsi, alors qu'en fait, nous avons besoin de continuer ces relations internationales, et on a vu combien, finalement, ça redonnait aussi de l'énergie à tout le monde de pouvoir discuter et échanger avec des expériences dans d'autres continents.
Ouais, je vois alors des exemples chez nous, en France, avec le mouvement associatif de Bretagne, qui devrait organiser, je ne sais pas si elles seront maintenues, des assises, enfin elles seront certainement à distance, autour du principe de la coopération, sur la base de « formidable, nous avons un potentiel d'acteurs associatifs, salariés ou bénévoles, il manque cette cohésion et ce lien qui donne une dynamique supplémentaire. C'est pas du chacun pour soi, mais c'est pas assez de coopération encore. Est-ce que on a des exemples de coopération associative qui marchent mieux et qui sont mieux organisées à l'étranger ?
Ah ben, moi, j'ai été frappé par la capacité de la société civile à s'organiser dans certains pays comme le Brésil. Et il y en a besoin aujourd'hui parce qu'ils sont dans une situation qui est une situation vraiment difficile et dans laquelle ils sont vraiment en train d'organiser la résistance. Et je pense que on peut voir aussi dans certains pays comme le Japon comment il y a un certain nombre d'initiatives qui permettent aujourd'hui de faire vivre une autre référence de celle d'une économie qui soit véritablement une économie durable au sens fort du terme. C'est-à-dire une économie qui soit pas prédatrice des ressources et qui soit en articulation avec finalement le monde humain mais aussi le monde qui nous entoure qui n'est pas humain. C'est la même tentative chez les femmes qui organisent l'agroécologie au Brésil qui sont aujourd'hui en train de fonder, comme on le voit avec les circuits courts dans nos pays, des formes d'agriculture qui sont une autre agriculture par rapport au productivisme et aux dégâts qu'il a engendrés.
Je lis dans ce manifeste, les traditions de l'économie populaire et de l'économie sociale constituent des preuves de résistance persistante à l'ordre dominant relativisant le principe du gain par la référence à des valeurs collectives. Mais quand vous parlez d'économie populaire, Jean-Louis Laville, vous entendez quoi ?
Oui, alors il y a l'économie sociale qui est un peu le terreau de l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui depuis longtemps dans les pays du Nord, mais dans les pays du Sud global, si l'on veut parler ainsi. C'est une économie populaire qui existe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a la moitié de la population, et c'est encore plus en Afrique, qui vit non pas par l'économie marchande formelle, mais par des moyens que les gens se procurent parce qu'ils s'auto-organisent. Et en fait, c'est des façons de survivre, parce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Ce qui s'est passé, c'est que dans un certain nombre de cas, ces façons de survivre, elles se sont... Et on revient à la question qui était posée à l'instant par notre situation française, c'est que les associations informelles, parfois c'est même des familles, se sont mises en coopération et ont entamé à partir de ça un dialogue avec les pouvoirs publics. Et grâce à cette mise en coopération, il y a une possibilité de sortir de la survie. Et c'est pour ça qu'on parle dans certains pays andins, par exemple, d'économie populaire et solidaire. L'économie populaire n'était qu'une économie de survie. L'économie populaire et solidaire exige aussi qu'elle soit reconnue et que ça devienne un axe dans lequel les gens peuvent trouver dignité et pas simplement survie.
Avec nous aujourd'hui, Jean-Louis Laville, co-auteur du Manifeste international pour l'économie solidaire, qui nous annonce, alors c'est peut-être une bonne nouvelle en ce moment, c'est que vous allez tenir quand même le rendez-vous que vous aviez prévu. C'est une journée d'études acteurs-chercheurs à Paris le samedi 21 novembre sur le principe « Quel monde associatif demain ?». Alors déjà aujourd'hui, il a été un tout petit peu dépouillé, même grandement dépouillé par la crise, avec la perte de moyens, parfois des associations qui n'avaient plus la possibilité et le loisir de poursuivre leurs activités pour cause de confinement. Aujourd'hui, on attend à nouveau beaucoup d'elles. Qu'est-ce qui va changer ? En quoi leur sort pourrait devenir bien meilleur dans les semaines ou les mois à venir?
C'est ça le grand paradoxe que vous soulignez à juste titre, c'est qu'elles ont fait la preuve dans la première partie de cette année qu'elles étaient indispensables dans le quotidien pour faire qu'il y ait des gens qui ne soient pas complètement isolés, pour faire qu'il y ait des possibilités d'alimentation, pour faire qu'il y ait du lien social qui continue à être tissé et qu'on ne soit pas dans l'anomie complète. Et en même temps, ce travail, il n'est pas reconnu, véritablement. Et il y a donc eu une première rencontre de réseaux associatifs et de chercheurs autour de cette protestation contre l'oubli dans le projet de plan de relance des associations. Et là, il y a une rencontre pour faire le point. Et c'est vrai que la situation, elle est ambiguë. On voit en fait se dessiner deux scénarios pour les associations de demain. Je commencerai par le scénario pessimiste, mais ensuite il y a un scénario beaucoup plus optimiste. Le scénario pessimiste, il va être présenté dans cette journée à travers le premier rapport de l'Observatoire des libertés associatives, qui a documenté de manière contradictoire une centaine de cas d'atteinte aux libertés associatives. Donc il y a un problème qui se pose dans ce domaine. Et puis, on a eu aussi tout un mouvement qui a essayé de montrer aux associations qu'elles devaient se rapprocher des entreprises pour leur financement, puisqu'il n'y avait plus beaucoup d'argent public, mais aussi en tant que modèle d'action. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que il y a ce scénario pessimiste de la banalisation des associations, comme si en fait les associations étaient condamnées à la réparation seulement.
Méfiez-vous, vous toussez, c'est mauvais signe.
Oui, je m'en rends compte.
Prenez soin de vous.
Tout à fait. C'est comme si les associations, elles étaient obligées d'écoper un bateau qui prend l'eau de toutes parts et qu'on voulait les cantonner dans ce rôle-là. C'est pas possible. Ce qu'elles veulent, les associations, c'est reconstruire un bateau qui nous permette ensemble d'aller plus loin.
Pourtant, excusez-moi, Jean-Louis Laville, notre secrétaire d'État, Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, annonce 1,3 milliard d'euros pour l'ESS. Alors, tout le monde dit génial, sauf que c'est mal dirigé.
Et oui, c'est que ce qu'il faudrait, je crois, et c'est ça qui va être la deuxième partie de la journée, c'est d'essayer de faire le bilan de toutes les analyses et propositions associatives. Et Dieu sait si elles sont nombreuses, depuis le mouvement associatif jusqu'à des propositions plus sectorielles. Je crois que ce qui est important, c'est que les formes de soutien qui sont indispensables soient co-construites avec les analyses qui ont été faites, ce réservoir d'idées qu'il y a aussi dans les associations. Les associations ne sont pas là véritablement pour écoper au dernier moment et pour essayer de réparer les dégâts. Elles sont là aussi pour participer à la transformation de notre société, pour aller vers un modèle qui soit un modèle dont nous avons envie parce que nous voulons vivre mieux dans la période qui s'ouvre.
Il y a un souci, c'est très bien d'alimenter avec de nouveaux fonds publics tout le réseau de l'économie sociale et solidaire, sauf qu'on alimente aussi une partie d'un secteur qui n'est pas marchand, et grandement pas marchand. Exemple, les associations, question que j'ai posée récemment à un interlocuteur. Vous allez certainement avoir une amélioration de votre subvention à partir du moment où vous prouvez l'efficacité de votre action. Une association fabrique du lien social, du mieux vivre ensemble, des projets collectifs, des loisirs, s'occupe aussi de la santé, s'occupe de la mobilité, du logement, du travail, mais à certains secteurs dont on ne mesure pas l'efficacité.
Tout à fait, Philippe, et ça va être la troisième partie justement de la journée. C'est comment, aujourd'hui, un soutien adapté ne peut être fait qu'en changeant les critères d'évaluation auxquels sont soumis les associations. Et là, on a des expériences, on va avoir le témoignage de la municipalité de Barcelone, et on a aussi de nouvelles mairies qui, aujourd'hui, souhaitent s'engager dans un autre rapport aux associations. C'est vrai que c'est pas évident, parce que il y a tout un travail de méthode sur comment évaluer autrement, mais je crois que c'est nécessaire, parce que sinon, on a une évaluation techniciste, quantitative, basée sur des ratios réducteurs comme l'efficacité et l'efficience, et visiblement, ça ne rend pas compte du travail réel qui est effectué.
Si la règle de mesure est celle de la lucrativité, on est perdu.
Oui, hein. Absolument.
Il y a des publications, alors précédentes publications, mais toujours d'actualité, chez Desclée de Brouwer, Jean-Louis Laville, c'est réinventer l'association avec une postface de Michel Rio-Sarcey contre la société du mépris, et plus récemment chez RS avec Maïté Juin et Juan, ma prononciation
Subirats.
Subirats. Muchas gracias. Du social business à l'économie solidaire critique de l'innovation sociale. Donc sous la direction de Maïté Juan et vous Jean-Louis aux éditions RS. Merci Jean-Louis.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Alors nos pages d'information des carnets sur franceinter.fr et sur notre page Facebook débordent de liens. Vous trouverez le lien avec le manifeste conduit par Jean-Louis Laville, le lien avec la journée du monde associatif en distanciel le 21 novembre, un lien d'ailleurs avec aussi les assises de la vie associative en Bretagne qui sont maintenues à distance, et puis aussi avec la revue Silence, dont le numéro du mois de novembre comporte un dossier qui m'a interpellé. Ça rénova avec ce que vient de dire notre invité, les bières artisanales en effervescence. Alors si la consommation, évidemment, avec modération s'impose, il y a un engouement pour les brasseries artisanales, les microbrasseries, on l'a déjà vu, qui est évident et presque sans limite. L'explosion de cette économie est telle que l'on dénombre plus de 1600 brasseries actuellement dans l'Hexagone et près de 10 000 bières référencées. Pourtant, le secteur de la bière artisanale ne représente que 7% du marché. Et il faut savoir que 75% de celui-ci est détenu par les trois plus gros industriels. Plusieurs explications sont retenues pour parler de cette explosion du savoir-faire artisanal. D'abord, la différence de prix entre la production industrielle et la production artisanale est bien moindre que dans le milieu viticole. Donc cette différence de prix est bien réduite. La seconde raison est la volonté de consommer de plus en plus local, ça on le sait. Puis la troisième, c'est une marque collective déposée par le syndicat national des brasseurs indépendants. Pour bénéficier de cette marque, plusieurs règles sont à respecter, comme l'utilisation d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle, l'absence d'additifs, c'est-à-dire de conservateurs ou de colorants, ou d'arômes artificiels, et le respect strict de la sécurité alimentaire. Autrement dit, autant d'arguments qui répondent là aussi aux besoins que nous avons, nous autres consommateurs, d'acquérir un produit naturel dont la provenance est d'ailleurs mentionnée sur l'étiquette. Et par ailleurs, il y a un titre de brasseur qui est officiellement lancé par le même syndicat qui regroupe déjà 500 brasseurs. Une certification professionnelle adossée à un référentiel de formation. Voilà, pour entretenir ce savoir-faire, voire le développer, puisque c'est le cas en ce moment. Vous allez trouver des liens avec la revue et le syndicat des brasseurs indépendants à nos pages. Et puis comme le fil rouge de la semaine est le Pas-de-Calais avec le jeu des 1000 euros, je voulais signaler l'existence de la plateforme pour l'emploi monjob62.fr, c'est drôlement bien fait. Vous êtes en quête d'emploi, vous déposez, vous inscrivez, vous déposez votre CV, vous êtes entrepreneur, vous déposez vos demandes de recrutement et puis vous avez une géolocalisation qui vous permet d'aller directement en contact avec le demandeur d'emploi monjob62.fr, ça c'est vraiment bien.